Bon, ben on a compris que le dossier de la laïcité des signes religieux, ça devrait être réglé d'ici l'été.
Ouais, moi je vais te dire là, Paul, là, l'entrevue qu'il t'a donnée hier matin, François Legault, c'est l'entrevue pendant laquelle il a été le plus clair jusqu'à maintenant, du moins, sur ses intentions.
Oui.
Sur ses intentions en matière de droit acquis pour les personnes qui portent déjà un signe religieux et qui sont en position d'autorité, et sur la question aussi du recours à la clause dérogatoire. Parlons d'abord des droits acquis. Je ne sais pas si c'est sa position finale, là, parce qu'hier, dans les propos qu'il tenait, là, c'était pas mal clair qu'il allait donner un droit acquis. Mais c'est parce que je pose la question, est-ce que c'est sa position finale? Parce qu'ils ont changé d'idée pas mal souvent à la CAQ là-dessus. Là. Je te rappelle, ils ont été élus en disant « pas de droit acquis ». Après l'élection, trois jours après l'élection, Geneviève Guilbeault a dit « pas de droit acquis », puis elle est même jusqu'à aller, elle est même jusqu'à dire « ils vont perdre leur emploi ». Ça sera leur choix, tu te rappelles? S'ils décident de ne pas l'enlever, ils vont perdre leur emploi. Quelques jours plus tard, Simon Jolin Barrette dit on est ouvert sur les droits acquis. Il n'était pas encore ministre responsable à ce moment-là de la laïcité. Il était juste porte-parole de la CAQ. Il y a deux semaines de ça, Legault change d'idée. Il dit il n'y en aura pas de droits acquis. Puis hier, en entrevue, il dit on ne veut pas mettre de monde à la porte. Fait qu'on est ouvert à regarder ça. Alors, puis je peux te dire une chose, c'est Jolin Barrette qui a gagné la bataille. Jolin Barrette, il en veut un droit acquis, et à l'interne, il s'est battu pour l'obtenir, puis si on décode bien les propos de François Legault hier, là, Jolin Barrette a gagné sa bataille. Bon, maintenant, droit acquis, Paul, là, ça règle pas tous les problèmes, là. Ce sera pas facile à gérer, ça, là.
Ben, c'est parce que moi, j'ai fait des entrevues avec des... quand on parlait de ça, là, avec des représentants syndicaux. Comment tu gères ça dans une école? Ben, quelqu'un qui a un droit acquis qu'il porte, va-tu falloir... quelqu'un qui dit, ben moi, toi, tu peux pas, moi, je peux.
Quelqu'un qui est rentré sans signe religieux, OK?
Aussi, t'as raison.
Puis qui décide d'en porter un. Bon. Puis après ça, si tu changes d'école, est-ce que tu transportes ton droit acquis avec toi? Tu comprends? Alors, ça ouvre la porte, bien entendu, à des contestations, ça. Hein? Si. Alors, de là, c'est la deuxième partie de cette déclaration qu'il a fait hier sur la laïcité, où il dit on va invoquer la clause dérogatoire. Là, à toute fin pratique, là, il dit, dans le fond, on va mettre la loi sur la laïcité et les signes religieux à l'abri de la contestation des tribunaux. Mais tu sais, Paul, même le recours à la clause dérogatoire, là, alors pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire, une fois qu'ils ont voté la loi, mettons d'ici l'été, il n'y a plus de contestation possible devant les tribunaux. La loi est protégée pendant 5 ans. Mais au bout de 5 ans, Paul, tout est à recommencer. Là.
Oui.
La clause dérogatoire est bonne pour 5 ans. Alors, mettons qu'ils votent la clause dérogatoire à l'été 2019. Là. Mettons, là, ils déposent le projet de loi au retour des fêtes, puis ils le font adopter d'ici l'été, là, comme il s'est à peu près engagé à le faire hier. Là. Enfin, il a réitéré ce qu'il avait déjà dit. Ça veut dire que la clause dérogatoire, elle commence en 2019. Ça veut dire qu'à partir de 2024, c'est fini. Ils sont en élection en 2022. Fait que si tu invoques la clause dérogatoire, ça veut dire qu'elle devient, dans les faits, un enjeu électoral en 2022. Là. C'est sûr que tu t'en vas en élection. Puis un des enjeux, ça va être, est-ce que le parti qui va former le gouvernement va reconduire la clause dérogatoire en 2024, 2 ans après l'élection? Puis je peux te dire une chose, la CAQ, ils sont déjà en train de penser à, comme tout gouvernement et comme tout parti politique qui est au gouvernement, ils sont déjà en train de penser à, dans 4 ans, s'ils décident d'invoquer la clause dérogatoire, tu peux être sûr qu'ils sont conscients des implications politiques d'aller là. Parce qu'à court terme, c'est vrai, quand tu dis, Legault, moi je veux mettre ça derrière moi, le monde est tanné, ça fait 10 ans qu'on en débat, là. Oui, il y a un geste d'apaisement là-dedans. Il y a une volonté, en fait, d'apaisement en mettant ta loi à l'abri des contestations. Mais dans 5 ans, c'est à recommencer, puis c'est sûr que ça devient un enjeu électoral. OK?
Penses-tu que le Parti libéral du Québec va reconduire une clause dérogatoire?
Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense que non. Là.
Et puis moi, je pense que ça fait partie du calcul, Paul. Ça fait partie du calcul. Les caquistes savent, dans 4 ans, en 2022, ça fait 10 ans que les chiffres sont toujours les mêmes. Bien placé pour en parler. Il y a entre 60 et 70 % des Québécois qui sont favorables à l'interdiction des signes religieux, puis je te parie que dans 4 ans, ça n'aura pas changé. Alors, la CAQ se retrouve en 2022 avec un enjeu électoral la reconduction de la clause dérogatoire. Puis
c'était un peu plus faible pour les enseignants. C'était vrai pour...
Un petit peu plus faible. Ouais. Un petit peu plus faible. Mais c'était encore autour de 60 %. Alors là, ils se retrouvent dans une élection en 2022, puis ils challengent les libéraux. Ah ouais? Si vous formez le gouvernement, vous faites quoi avec les signes religieux? Allez-vous reconduire la clause ou on va se retrouver encore dans la même boîte? Politiquement...
Puis remarque, tu vas voir aussi comment ça va s'appliquer pendant cette période-là. Là.
C'est clair, c'est clair. Puis ça, c'est l'autre affaire. Jolin Barrette, c'est lui qui est ministre responsable. Mettons qu'il est... Sur les droits acquis, je la connais, sa position. Il en veut. Il en veut un droit acquis. Sur la clause dérogatoire, son boss nous a dit hier en entrevue, garde, nous autres, là, on s'en va là, là. Jolin Barrette, je ne sais pas, es-tu d'accord avec la clause dérogatoire ou pas? C'est un juriste, un avocat. Lui, ça veut dire que pendant tout le printemps, là,
mais t'es...
il va se faire dire, la raison pour laquelle t'invoques la clause dérogatoire, c'est que tu sais qu'elle est inconstitutionnelle.
Ben, tu sais que légalement, tu vas te faire planter par la Cour suprême.
Et voilà. Alors, toi, t'es avocat, puis tu dois dire quoi? Tu réponds quoi à ça?
Ben, tu réponds, t'as deux choix. Ou tu te soumets au jugement, ou tu invoques la clause pour le mettre de côté.
Bon, puis là, tu dis... Alors, tu dis...
Pis là, tu dis, je vous laisse même pas le temps de me poursuivre.
Exact, exact.
Je règle ça en partant.
Et voilà.
Ben, c'était, c'était ça hier, là.
Ben, c'est clair. Puis, c'est-tu quoi? T'ouvrirais les lignes, puis je suis certain que la majorité des gens diraient, hey, regarde, là, on n'a pas le goût de voter une loi sur la laïcité puis se retrouver avec des jugements de tribunaux les uns après les autres pendant les années qui vont suivre. Là. Fait que on veut, oui, on veut mettre ça de côté. Alors, politiquement, moi, je pense que c'est... Politiquement, c'est gagnant pour eux autres.
Non, mais on a eu une bataille sur la langue. On est allé jusqu'en Cour suprême sur des pans de la loi 101.
Oui. Oui, mais tu sais que, mais oui, puis Bourassa l'a invoqué, la clause dérogatoire sur la langue d'affichage, tu te rappelles?
Oui, oui.
Puis à un moment donné, on a trouvé une espèce d'équilibre. On est là-dedans présentement, mais ça a pris du temps avant de trouver notre équilibre au niveau linguistique. Moi, je te parie que sur la laïcité, ça va ressembler à ça aussi, là. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on trouve une espèce d'équilibre. Mais en tout cas, regarde, on va en parler beaucoup après Noël.
Ben oui.
On va se garder du temps pour parler d'autres choses parce qu'à un moment donné, je veux dire, après Noël, on va avoir des sacrées discussions sur ce sujet-là.
Parlons évidemment de cette fin d'année. Hier, on parlait du ministre de l'Éducation. Là, tu nous parles de la ministre de la Santé, Danielle Mécan.
Oui, voilà. Écoute, être dans la tête de Danielle Mécan, c'est se dire l'éducation a beau être la priorité numéro un du gouvernement, là, la priorité numéro un des Québécois, c'est la santé. Et contrairement à Jean-François Roberge qui doit jongler avec plusieurs priorités puis décider lesquelles passent en premier, là, Danielle Mécan, elle n'a essentiellement qu'une priorité, Paul, l'accès. Et c'est déjà clair dans sa tête, me disent plusieurs personnes, que ça passe par un nouveau mode de rémunération pour les médecins. Le pari de Danielle Mécan, c'est de changer le mode de rémunération des médecins pour que ce ne soit plus seulement un paiement à l'acte, mais pour que ce soit un paiement au nombre de patients qu'ils prennent en charge. Et le pari qu'ils font à la CAQ, c'est que si les médecins prennent plus de temps pour s'occuper des patients, qu'ils soient plus disponibles pour s'occuper des patients qu'ils ont à leur charge, ça va nécessairement obliger les médecins à partager davantage le travail avec les autres professionnels de la santé. Donc, un nouveau mode de rémunération qui s'en va vers ce qu'ils appellent la capitation, donc tu es payé par tête de pipe, par tête de patient, et le décloisonnement des professions. Donner plus de pouvoir, donner plus de responsabilité aux infirmières, aux super-infirmières en particulier, et aux pharmaciens. Ça, c'est le plan de match. À ce temps, Paul, penses-tu que les médecins vont accepter un changement à leur mode de rémunération sans qu'il y ait une longue négociation qui précède cette conclusion? Écoute, Mme Mécan, on me dit que c'est une femme très humaine. Ça va faire changement de la méthode bulldozer de Gaétan. Puis c'est vrai que dans le secteur de la santé, là, ils ont besoin d'amour. Puis elle va leur en donner.
Puis, mais c'est parce que tu as deux batailles là-dedans. Tu as la bataille de la rémunération, c'est sûr, là, dans le sens où... Le médecin ne voudra pas perdre un sou dans ça. Là. Il va être d'accord pour revoir la méthode, peut-être. Mais... Puis t'as ce que j'appelle la guerre de tranchées entre les ordres professionnels.
Ah oui. C'est, les batailles corporatistes.
Combien tu penses ça a pris de temps pour aller chercher quelques activités pour les pharmaciens? La bataille avec le Collège des médecins, là. Puis t'as tout le débat. Je me souviens quand ils ont commencé à implanter ça. Tu sais, le pharmacien dit OK, mais c'est couvert par qui? La RAMQ qui va payer pour ça? Le patient ne peut pas, mais...
Alors, c'est sûr que ça finit, en bout de ligne, là, cette bataille-là là, sur la rémunération puis le décloisonnement, ça finit en bataille politique. Ça finit en épreuve de force avec les médecins.
Moi,
ça,
je suis le médecin, toi, tu es l'infirmier, mettons. Là. Ouais. Est-ce que toi, t'es embauché pour faire ça? Mm. Mais théoriquement, je te supervise.
Oui, mais
moi, là... J'ai un montant d'argent pour te superviser aussi. C'est ça, actuellement. Là.
Mais ça, à mon avis, c'est ça à table, ça. Est-ce qu'on continue comme ça? Parce qu'actuellement, le médecin, il est payé à l'acte pour te superviser. Mais si dorénavant, il est payé au patient, y a-tu encore besoin de recevoir de l'argent pour superviser l'infirmière qui est avec lui? Moi, je pense pas. Hein. Si tu décides d'aller dans cette direction-là, tu donnes une véritable autonomie à tes autres professionnels, y compris à tes infirmières. Mais les médecins vont pas laisser ça aller sans rien dire. Et donc, c'est là qu'on va voir les talents de politicienne de Mme McCann, qui est très technocratique dans son approche, mais on me dit qu'elle apprend vite puis qu'elle a un bon don pour la communication. L'avantage qu'elle a, et je termine là-dessus, c'est qu'elle est pas tout seule dans le dossier santé. Il y a Marguerite Blais, qui la seconde avec tout le dossier des CHSLD, ouais, des aînés, des prochains aidants, puis elle est capable de faire de la politique.
Ça veut dire qu'ils ne défront pas ce que Barrette a fait?
Absolument pas. Ils se lancent pas là-dedans du
donc,
tout.
Donc, ça a des bonnes réformes?
Ben, il devait avoir du bon là-dedans. En tout cas, ils veulent pas toucher à ça, c'est très clair. Et elle a aussi Lionel Carman.
Oui.
Qui, lui, doit apprendre à faire de la politique. Lionel Carman, tu te rappelles
de ça? Le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal.
Le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal.
Merci, monsieur. Bon week-end à vous.
Qui apprennent à faire de la politique, monsieur Carman.
7h15. Le tour de vin, oui, pour commencer.